qu'on n'arrive plus à vivre. Il faut être honnête, les augmentations débordent. On a des TVA partout, des taxes.
Avec 1 200 euros et encore, je suis gentille, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Nous, on en a marre, on est en bas, on souffre, nos enfants souffrent. Et à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête.
On a un bon slogan chez les Gilets jaunes. On est tous ensemble et on lâchera rien.
Gilets jaunes, où en est le mouvement? Une émission spéciale de Radio Plus, préparée et présentée par Julien Maille et Jean-Philippe Planck.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors que s'est terminé ce week-end le 15e samedi de mobilisation des Gilets jaunes qui a rassemblé près de 46 000 manifestants au niveau national, un chiffre en hausse par rapport à la semaine précédente, et pour notre région près de 1 500 manifestants à Lille ou encore près de 500 à Béthune, nous allons faire le point durant 2 heures sur ce mouvement des Gilets jaunes et sur ses issues au travers de témoignages, de reportages et des réactions de nos invités. Pour animer avec moi cette émission, Jean-Philippe Planck
et Julien Maille de Radio Plus. Avec nous autour de la table, Frédéric Durier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vendeur de pièces automobiles et vous faites partie du mouvement des Gilets jaunes de Béthune. Et vous êtes accompagné d'une autre Gilet jaune, basée également à Béthune, Hélène Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous exercez le métier d'aide-soignante. Avec nous également Philippe Kemel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien député, maire socialiste de Carvin, et merci en tous les cas d'être avec nous dans les studios de Radio Plus. À vos côtés, Kamel Benazouz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, responsable fédéral du Pas-de-Calais du Parti communiste français. On vous remercie également d'être présent avec nous ce soir. Et puis, on attend également l'arrivée de Bruno Bilde, député de la 12e circonscription du Pas-de-Calais et membre du Rassemblement national, qui doit arriver normalement si tout va bien.
Oui, on devrait le retrouver avec nous au micro. Alors, démarré le 17 novembre dernier, le mouvement des Gilets jaunes a pour particularité de proposer des manifestations partout en France le samedi. Ponctuellement, on a pu voir des Gilets jaunes mobilisés tout au long des autres jours de la semaine, au travers d'opérations péage gratuit, de blocage de la circulation, d'opérations d'information, etc., etc. Depuis, ce sont pas moins de 15 actes, 15 samedis de mobilisation qui se sont déroulés, marqués notamment dans la capitale par des manifestations parfois très tendues. On recense 2000 blessés à l'heure actuelle chez les Gilets jaunes, 1 200 chez les forces de l'ordre. Et puis il y a aussi ces images qui auront marqué ce mouvement social, parmi lesquelles la dégradation de l'Arc de Triomphe ou encore l'affaire du boxeur de gendarmes.
Mais aussi une répression marquée par l'utilisation importante des LBD, les fameux lanceurs de balles de défense, avec près de 10 000 tirs de LBD comptabilisés depuis le début du mouvement. On dénombre par ailleurs 11 morts, dont 5 gilets jaunes, les 8 autres ayant été provoqués par des accidents de la route en marge de barrage. Autre chiffre à prendre en considération, le nombre de personnes interpellées depuis le début du mouvement. On en dénombre 8 000 pour un total de 1 800 condamnations. Alors, les Gilets jaunes sont-ils toujours aussi déterminés que depuis le premier jour de mobilisation en novembre dernier? Les réponses du gouvernement entre coups de pouce d'hiver et grand débat national suffisent-elles à satisfaire le plus grand nombre ou sont-elles, au contraire, un coup de com'? Les syndicats et partis politiques peuvent-ils s'associer à ce mouvement? Autre question, est-ce que la gestion des manifestations et des débordements fait appel à une réponse, entre guillemets, proportionnée, comme l'affirme entre autres le ministre de l'Intérieur?
Avant de donner la parole à nos différents invités sur ces questions, on va découvrir de premiers éléments de réponse avec ce reportage réalisé lors de la manifestation nocturne de vendredi dernier à Béthune par les Gilets jaunes, une manifestation qui a rassemblé environ 500 personnes.
Satisfait de la mobilisation?
Très satisfait. On a réussi à mobiliser quand même pas mal de monde. Puis bon, pour l'instant, ça se passe bien. Avec un peu de pétard, beaucoup de bruit comme on voulait. Pour l'instant, c'est bon.
Avec beaucoup de monde de partout, en fait, hein, de toute la région quasiment.
Ouais, on a des gens de Lille, des gens de Liévin, des gens de Helleux, des gens de Calandricoire, voilà, on a des gens de Saint-Omer. On a les Boulonnais aussi qui sont là. Hop. Et du coup, on s'est déplacé chez eux et ils nous rendent pareil en se déplaçant chez nous.
Vous venez de Doitrelo, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici ce soir?
On a un groupe, donc on recherche toutes les actions qu'il peut avoir et on rejoint toutes les actions.
Qu'est-ce qui vous ferait arrêter la mobilisation? Ce serait quoi la première chose qui vous ferait cesser?
Plus d'argent.
Parce que sincèrement, même si on travaille à deux, avec deux salaires, on arrive le 15-20 du mois, on n'a plus rien. Et sincèrement, faire plaisir à nos enfants, c'est surtout ça. Là, l'avenir de nos enfants, on ne le voit pas. Hein. Moi, je suis salariée, mon mari, il est salarié aussi, et on ne s'en sort pas. Madame, c'est pareil, on est tous des salariés. Donc, si les salariés sont dans la rue, c'est qu'il y a une raison quand même. Alors, on ne va pas s'amuser à venir défiler ni la nuit ni le jour pour dire de s'amuser.
C'est l'augmentation du gasoil, il nous avait dit qu'elle allait le baisser, et là, je vois que le gasoil, il remonte. Et en fait, bah, nous, on travaille à deux. On n'arrive pas à s'en sortir. J'ai trois enfants, j'arrive pas à m'en sortir, on travaille à deux. C'est pour tous les gens, pour tous les retraités qu'on est là aussi, qui peuvent pas venir ce soir, et nous on est là pour eux aussi, voilà.
Donc vous venez de Boulogne, c'est ça?
Ouais, c'est ça, on vient de Boulogne.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici à Béthune?
C'est comme tous les week-ends, c'est pas la même revendication.
Rien n'a bougé depuis le 17 novembre?
Non, pas pour l'instant, mais on fait en sorte que ça va bouger.
Qu'est-ce qui vous ferait cesser le mouvement, par exemple?
Le référendum d'initiative.
Ouais.
Après, la baisse des taxes des produits de nécessité.
Avec 1200 euros et encore, je suis gentille, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On est quatre. Deux enfants à nourrir, plus nous, deux adultes, il faut bien qu'on mange aussi. Plus un loyer de 690 euros. Plus moi, je suis malade. On me demande quand même de payer une taxe d'habitation, alors que normalement, les personnes handicapées sont exonérées.
On voit que les choses ne bougent pas. Ils ont figé un peu les taxes sur le gasoil. On voit que ça augmente, donc on reprend toujours plus fort, toujours ensemble. Vous êtes mobilisé depuis le départ? Depuis le départ, jour et nuit. Moi, j'étais sur Roquette au niveau de l'Étrême. On a bloqué Béthune ensemble au commencement. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble sur Béthune. Malheureusement, à deux, le bras un peu immobilisé. Mais c'est pas ça qui nous empêchait d'être présents ce soir. Alors là, il y a des gilets jaunes qui viennent d'un peu partout dans la région. Waterloo, Dunkerque,
Hénin-Beaumont, l'Étrême, Saint-Omer. Ça vient de partout. Ça vient de partout.
Et ça, c'est une satisfaction pour vous?
Ah, c'est preuve que le peuple est solidaire et il faut continuer comme ça.
Le gouvernement n'a pas du tout donné de réponse. Alors bien entendu, il nous sort à chaque fois qu'il y a eu 10 milliards qui ont été donnés, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 10 milliards, on a une grosse partie liée à la prime d'activité, une grosse partie d'anticipation sur les heures supplémentaires. Mais une nouvelle fois, les heures supplémentaires, il faut encore que les patrons puissent les donner. En ce qui concerne la prime d'activité, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui l'a touché se sont vus diminuer les APL. Au final, il n'y a aucune augmentation du pouvoir d'achat.
La démocratie, elle a attaqué. Quand les pouvoirs ils sont plus séparés, c'est pour la démocratie.
Comme là, mettre des gardes à vue pour les gilets jaunes, il n'y a pas de raison. Comme cet après-midi au CHR de Lille, il y en a 5 qui sont arrêtés, ils sont en garde à vue jusque demain. Ils n'ont rien fait. On a les vidéos à l'appui, ils n'ont rien fait. Mais bon, il faut qu'ils sachent qu'il y a Facebook maintenant, il y a les réseaux sociaux et que tout est filmé. Donc il n'y a pas que la télé qu'on regarde, il y a les réseaux sociaux aussi, et là on a la vérité. Et on va dire que le mouvement il s'arrête, parce que le mouvement ne s'arrête pas du tout, on lâchera rien et on ira jusqu'au bout, rien que pour les blessés et les décédés.
Voilà donc pour ce reportage réalisé lors de la manifestation nocturne des Gilets jaunes à Béthune vendredi dernier. Alors je vais m'adresser tout d'abord aux Gilets jaunes présents ce soir, Hélène Laurent et Frédéric Durier. Où en est, selon vous, le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui? Est-il toujours uni?
Oui, il est toujours uni dans la mesure où on a pu le constater vendredi. Des gens viennent de partout, nous on se déplace aussi partout. Et après, où il en est? Il en est quasiment au même point, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le gasoil, à titre indicatif, au cas où les gens ne regarderaient pas, est plus cher que le 17 novembre. C'est ce qui avait mis tout le monde dans la rue, et c'est aujourd'hui, on ne les voit plus, ces gens-là. Donc, il n'a pas bougé, le mouvement. Par contre, la solidarité est toujours là, et bien plus forte même qu'au début.
Mais si je vous écoute, la mobilisation a baissé?
Baisser, non, on voit les gens qui sont vraiment déterminés à faire changer les choses. Au début, c'était peut-être un amusement pour certains d'entre eux, ou alors qu'ils nous prouvent le contraire en revenant dans les rues.
Après, je pense aussi qu'il y a des gens qui se déplacent plus sur l'île ou les grandes manifestations les week-ends, parce que, comme on dit, ça fait 3 mois qu'on est dehors. Alors, on travaille pour la plupart, on travaille. Et donc la semaine, c'est quand même difficile de pouvoir être jour et nuit dehors. Donc je pense aussi que s'il y a moins de monde la semaine dans les rues, ben c'est parce que oui, ça s'essouffle peut-être la semaine parce que ben on a une vie de famille, on a des enfants, on travaille et quand on rentre, on n'a pas toujours le temps de pouvoir aller soit sur les camps ou sur les manifestations. Par contre, les week-ends, on voit quand même bien que les manifestations, il y a énormément de personnes. Et alors, comme enfin, vous avez évoqué 1500 personnes à Lille ce week-end, alors je ne sais pas où...
Chiffre de la Voix du Nord.
Ouais, chiffre de la Voix du Nord.
Qui reprennent certainement les chiffres officiels de la préfecture.
Alors que nous, donc ce week-end, on ne s'était pas déplacé à Lille parce qu'on avait fait notre manifestation vendredi. Donc il y a aussi voilà, une vie de famille, on ne peut pas être toujours sur le terrain. Par contre, on y avait été le week-end d'avant, où il y avait beaucoup de monde. Et quand on a vu, on a quand même des Béthunois qui y ont été samedi, nous disent beaucoup plus que 1500 personnes. Donc après, les chiffres, voilà, ils sont toujours discutés. On ne sait jamais si bien. On est incapable nous-mêmes de compter combien on est, parce qu'il y a des gens qui vont venir une heure, c'est des gens qui vont rester trois heures, où on se relaye. Donc on est incapable de dire combien on est sur les manifestations.
Quoique vous, Frédéric, vous aviez trouvé une petite méthode sympathique pour compter.
Oui, tout à fait. Au début d'une manif, en fait, on a des gens qui tiennent des sacs et chaque manifestant vient avec un bouchon plastique et met le bouchon plastique dans les sacs. Après, ben, il n'y a plus qu'à compter le nombre de bouchons. Le problème de ce système, c'est comme on a pu le constater vendredi à Béthune, on a commencé, on était à peine 200 et des gens nous ont joints pendant le cortège, notamment des retardataires qui viennent de plus loin ou qui, par leurs obligations, ne peuvent pas être là au départ de la manifestation.
Des gens qui travaillent et qui arrivent après le travail. Ça, c'est personnellement, c'était mon cas vendredi. Donc, les bouchons, c'est bien, mais on n'a jamais de chiffres exacts. Maintenant, c'est oui, une technique qu'on a déjà utilisée sur plusieurs manifestations.
Julien.
Oui, et puis pour préciser justement cette question des chiffres, il faut savoir que la préfecture du Nord ne communique plus sur les chiffres des manifestations sur ce mouvement des Gilets jaunes. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas de source officielle. Donc là, le comptage, effectivement, c'était le comptage Voix du Nord que je viens de vous citer pour ces 1500 manifestants recensés à Lille.
Alors, certains manifestants l'affirment eux-mêmes, la mobilisation a quand même baissé par endroit. Est-ce que, justement, le fait de se regrouper, comme vous le faites actuellement, c'est la tendance de fond dans le mouvement des Gilets jaunes ? De venir d'un peu partout dans la région ?
Ben, je dirais que nous, quasiment toutes les personnes qui sont là étaient déjà sur le premier point de rassemblement qu'on a quitté pour évincer certains mauvais éléments. On se retrouve quasiment pareil, on a perdu quelques éléments et on en a récupéré d'autres. Donc on est en moyenne, sur notre point de rendez-vous, nous, en moyenne 40 personnes journalières qui tournent du matin au soir, voire très tard dans la nuit.
Donc vous, sur le terrain, vous ne le constatez pas en fait ? Très peu.
Chez nous, non. Après, quand on va dans les, quand on voit les films internes de mecs qui sont bien connus, comme La Licorne sur l'île, nous on a Anthony qui fait beaucoup de live sur notre camp de Béthune,
sur votre page Facebook, oui.
Et sur la page Facebook BF Jaune qu'il a créée. À Lille, on peut, quand on entend 1500, nous, entre guillemets, ça nous embête un petit peu parce qu'on voit très bien que la manifestation, s'ils n'étaient pas plus de 2500, il n'y en avait pas un seul, quoi. Donc, on se plaît, nous, à dire dans la manifestation, ah tiens, on est autant, selon BFM TV.
Pourquoi est-ce que vous continuez à être mobilisé encore aujourd'hui, plus de 15 semaines après le début du mouvement ?
Bah, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas. On est toujours au même point, même pire, du fait que la petite pseudo-avancée du gouvernement n'est qu'une pour une petite poignée de personnes qui étaient dans les rues. Le prix du gasoil a augmenté plus que ce qui était au 17 novembre. Donc on est toujours dans les rues pour toujours les mêmes choses.
On n'a pas eu d'augmentation de notre porte-monnaie à la fin du mois. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire comprendre à M. Macron, c'est que les Français sont en souffrance et que les petites propositions qu'il nous a fait déjà ne touchent pas tout le monde. Et nous, à l'heure actuelle, on n'a rien de plus. Donc on restera dans la rue tant qu'on n'aura pas un minimum d'avancée.
Alors justement, qu'est-ce qui vous fera arrêter le mouvement, précisément ?
La première des grandes choses, c'est justement ce fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait de rendre enfin le pouvoir au peuple de pouvoir dire non, 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 cette loi-là, on n'en veut pas. D'avoir vraiment un pouvoir. Après, cette fameuse augmentation du pouvoir d'achat qui peut se faire selon pas mal de modes et pas mal de petites choses qui peuvent augmenter mécaniquement sans même toucher au SMIC horaire, le pouvoir d'achat. La baisse des charges sociales en fait partie.
Alors on en débattra évidemment tout à l'heure hein, de tous ces sujets, hein, puisque on a prévu effectivement de développer un peu les thématiques autour du RIC et puis autour aussi de cette histoire de baisse des charges sociales. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Évidemment, ce sera évidemment, on aura l'occasion d'en débattre. Julien.
18h16 sur Radio Plus, vous êtes toujours avec nous à l'occasion de cette émission spéciale Gilets jaunes, où en est le mouvement? Et on continue justement d'interviewer nos deux Gilets jaunes de Béthune présents ce soir, Frédéric Durier et Hélène Laurent. Alors le mouvement des Gilets jaunes, au départ, c'est effectivement cette hausse du prix de l'essence qui a cristallisé énormément de Français. Est-ce que ce mouvement a toujours gardé ses raisons originelles? Je me précise ma question, puisque vous expliquiez tout à l'heure, effectivement, Frédéric, que oui, le gasoil est loin d'avoir baissé, il a même tendance à augmenter. Je l'ai vu à 1,425 tout à l'heure en passant devant une pompe à essence. Mais on a l'impression parfois qu'on perd un peu le fil des revendications avec tout ce qui a pu se rajouter. Le référendum d'initiative citoyenne, l'augmentation du pouvoir d'achat, et puis plein de revendications comme ça qui se sont greffées au mouvement. Quelles sont les revendications du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui?
Elles sont quand même relativement multiples, parce que au départ, ce qui a vraiment motivé la chose, c'est la hausse de ce fameux carburant. Et puis après, en discutant entre nous, on se rend bien compte qu'il y a pas mal de choses qui en fait ne vont pas. Le carburant, le pouvoir d'achat, des élus qui se goinfrent royalement des deniers publics, excusez-moi de le dire, des promesses qui sont non tenues, des promesses de campagne, les zéro SDF dehors. On n'en a pas logé un seul, par contre on prend des logements pour des gens qui normalement n'ont pas d'existence légale sur notre territoire. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Un migrant n'a pas de papier, donc il n'a pas d'existence légale. Cette fameuse évasion fiscale et cette fraude fiscale qui nous coûte des milliards par an, le système de retraite qui n'est pas égalitaire pour tous, et encore moins entre le peuple et les élus, les retraites qui sont abominables, très basses et qui sont indignes des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont permis de construire notre pays.
Avec du coup donc la CSG qui s'est rajoutée.
Par exemple, ces gens-là, ils ont cotisé quand même pendant 41 annuités maintenant, me semble-t-il, ou 42. Et on leur prend encore de la CSG sur une retraite. Alors que, quelque part, si on avait plus d'emplois en France en taxant moins le travail, ça nous permettrait d'avoir plus d'employés et donc moins de CSG, on pourrait l'enlever à nos retraités, qui gagneraient mécaniquement plus, sans même toucher encore une fois au SMIC auto-horaire.
Donc voilà, de nombreuses revendications, hein, dont on parlera encore hein, tout au long de cette émission. Est-ce qu'au bout du bout, votre souhait ultime, ce n'est pas tout simplement de renverser le gouvernement et de provoquer l'organisation de nouvelles élections?
Je dirais que concrètement parlant, on en est à un tel point pour la plupart des Gilets jaunes à ne plus croire à cette politique, à ne plus croire à nos politiciens. Donc renverser le gouvernement pour y mettre qui? Qui fera quoi? Puisque dans les hautes sphères, je parle pas de nos élus locaux, hein, dans les hautes sphères, ils ont tous des dossiers sur tout le monde. Donc ils feront pareil que les autres, peu importe qui on met, malheureusement. Après, c'est toujours délicat de cataloguer un tel ou un tel ou un tel. On parle toujours d'une généralité, malheureusement.
Moi, je pense que voilà, c'est l'un des slogans Macron démission. Maintenant, nous, on en a déjà parlé à Béthune, personnellement. Enfin, voilà ce qu'on dit, mettre quelqu'un d'autre. Non, maintenant, qu'il entende le peuple et qu'il essaye de faire des choses pour que son peuple aille mieux. Maintenant, qu'on mette lui ou quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on dit. Enfin, personnellement, on sait très bien que le problème n'est pas issu que de lui. C'est déjà d'une politique qui était déjà avant. Donc, lui, il a pris le lourd sac qu'il a des dernières années, mais
Il a aussi, un peu alourdi, non ?
Il y a aussi le problème de son arrogance. Et je pense que si le 17 novembre, quand les gens ont été dans la rue le premier week-end, il s'était prononcé assez vite, il n'y aurait peut-être pas eu autant de revendications. Peut-être que s'il avait dit « Ok, j'entends ce que vous dites », assez vite, il se serait statué pour essayer d'arranger les choses. Je pense que le mouvement se serait essoufflé tout de suite, sauf qu'il n'a pas réagi tout de suite. Les Français ont senti une sorte d'arrogance et ça a monté. Et le fait de dire « Je ne changerai pas de cap, je resterai sur ma route », c'est tout nous maintenant. On a des revendications et on veut avoir un minimum de gain de cause avec lui.
Radio Plus, émission spéciale « Gilets jaunes, où en est le mouvement ?»
Voilà, on vient donc d'entendre effectivement les premières réactions de nos gilets jaunes invités. Donnons la parole également aux élus qui sont autour de ce micro. Philippe Kemel, je me tourne vers vous, maire socialiste de Carvin. Votre commune a connu des mobilisations. Un QG s'y était d'ailleurs établi près du garage de la Saneige. Mais un incendie a ravagé ce QG et vous venez d'ailleurs de mettre une salle à disposition de ces gilets jaunes afin qu'ils puissent, ce sont vos propres termes dans la Voix du Nord hier, poursuivre leur mouvement en toute sécurité. Quel est votre regard sur ce mouvement des Gilets jaunes, Philippe Kemel?
Mon regard est le résultat d'une politique qui, forcément, se faisait, cela a été dit, avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de verticalité, avec la suppression de l'ISF, donc des cadeaux fiscaux aux personnes les plus riches. C'est une politique pour les très riches. Et effectivement, quand on a des revenus faibles, quand on travaille, qu'on a des revenus faibles, et en plus qu'on travaille loin de son domicile, qu'on est obligé de faire régulièrement des allers-retours. Et moi, je vois dans ma ville, les familles n'ont pas besoin d'une seule voiture. C'est deux, trois, parfois quatre voitures, à la fois pour les enfants et pour l'épouse et le mari. Et quand, en termes de carburant, c'est 40 euros pour une voiture multiplié par 3 ou par 4, on voit tout de suite ce que cela donne sur un budget. Donc, l'augmentation des prix des carburants, soi-disant pour le modèle de la protection de la nature, le modèle écologique, la taxe carbone, ce qui sur le fond n'était pas une recette non plus pour le développement durable, ne pouvait avoir que ces effets-là. Et dès le premier jour, j'ai senti cela. Et d'ailleurs, je suis allé à la rencontre de celles et ceux qui étaient sur les ronds-points pour leur dire « Je vous comprends, je ne suis pas avec vous parce qu'il n'y a pas question d'être politique dans un mouvement qui donnerait l'impression d'être dans la récupération, mais je vous comprends. Et sachez que je suis à votre disposition quand vous le souhaitez pour dialoguer. » Et quelques temps plus tard, le collectif des Gilets jaunes de ma ville est venu me voir en disant « Bon, sur le fond, on veut s'exprimer. » Ils se sont exprimés en se localisant près d'un rond-point. Des difficultés, parce que j'avais la crainte, je voyais les feux assez réguliers, et ma foi, il fallait se chauffer le soir. Et j'avais beaucoup d'inquiétudes, parce que quand on est complètement enfermé, qu'il fait très froid, on est complètement enfermé, le feu peut générer effectivement beaucoup de dégâts. Et malheureusement, il y a eu un incendie. Heureusement, il n'y avait personne. Donc pas de blessés. Suite à cela, je les ai rencontrés, j'ai dit, écoutez, c'est compliqué, il y a beaucoup d'insécurité, moi je vous propose de vous réunir dans une salle que j'ai mise à disposition, et puis ils font leur travail d'information, de mobilisation. Voilà, donc c'est une compréhension, parce que, comme cela a été dit, le mouvement a sa légitimité, et aujourd'hui, les réponses qui ont été apportées n'ont pas été apportées sur de véritables propositions pour le mouvement social, parce que c'est un mouvement social. Et augmenter la prime d'activité, qui bouge en fonction du revenu et fait diminuer d'autres revenus. La prime d'activité, c'est nous qui l'avons mis en place dans la majorité précédente. Pourquoi ? C'était pour permettre notamment de regrouper un certain nombre d'aides sociales qui n'étaient pas consommées au budget pour les ramener et les donner en complément aux bas salaires. Mais ce n'est pas une politique salariale. La vraie politique salariale, elle se négocie avec les entreprises. Et c'est une question que j'aurais à vous poser d'ailleurs. Il y a aussi le sujet des entreprises des dirigeants d'entreprises qui, eux, mènent des politiques salariales, et comment faire pour qu'ils soient plus impliqués peut-être dans le mouvement et qu'ils finissent peut-être par modifier aussi les règles du jeu de l'attribution des salaires et qu'on en vienne à une véritable augmentation des salaires.
On va en reparler tout à l'heure de toute façon de ce sujet. Alors Kamel Benazouz, comment interprétez-vous ce mouvement des Gilets jaunes, les revendications qu'ils portent notamment sur le pouvoir d'achat, la hausse des salaires ou encore le rétablissement de l'ISF ?
Bien écoutez, pour les communistes, c'est une bouffée d'air. Ça fait des années et des années qu'on se bat contre la précarité, contre la misère. Ça fait des années qu'on pointe du doigt les questions du pouvoir d'achat, la casse des services publics, la casse de la sécurité sociale, la casse de la santé, etc., etc. Et quand le peuple se met à parler... Moi, je fais fi de la question des violences parce que pour moi, la vraie violence, c'est quand un travailleur, il n'arrive pas à vivre de son travail. C'est quand il y a 10% de travailleurs pauvres dans ce pays. On travaille, on est pauvre. Et je vous parle même pas de celles et ceux qui n'ont pas de boulot, qui sont au minima sociaux. C'est en gros, ils sont assignés à résidence et ils ont le temps d'attendre de voir la pénurie. Et ben ça fait du bien. Et le gouvernement, il est bien embêté. Parce que ça fait des années que c'est les mêmes politiques qui sont produites. On parle de coût du travail. Et moi, je veux qu'on pointe du doigt le coût du capital. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces ultra-riches? Et pour la plupart, ils sont en lien avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font, ces ultra-riches? Ils se goinfrent. Ils se goinfrent. C'est à coût de milliards d'euros. À coût de milliards d'euros. Et là, eux, on les laisse tranquilles. Mais par contre, on tape sur le peuple. On est en train de faire payer. Oui, il y a une urgence écologique. Oui, d'accord. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils en peuvent, les pauvres travailleurs qui ont besoin de leur voiture d'une manière nécessaire pour aller travailler? Parce que ici, par exemple, dans la région ou dans le Pas-de-Calais ou le Nord, quand on n'a pas de voiture, c'est difficile de se déplacer. On est en train d'ailleurs de nous supprimer des lignes TGV, etc. Bravo la réforme de la SNCF, vive la privatisation. Eh bien, toutes ces revendications populaires, eh ben, c'est bien. Et puis le mouvement, il faiblit un petit peu. Vous savez, chez les cocons, on a un peu l'habitude des luttes longues. Eh ben, on peut démarrer fort, puis à un moment, ça fatigue, et c'est pour mieux reprendre après, mais ça pointe du doigt une question essentielle. C'est sur le sens de la société. C'est sur ce capitalisme aujourd'hui qui est prédateur, qui brise la vie des gens, quand même. Quand j'ai un chiffre, hein, la fraude fiscale, c'est pas cette personne qui va gratter 10 ou 20 euros d'allocation ici et là. Alors, on les pointe toujours du doigt. Mais la fraude fiscale, c'est plus de 100 milliards d'euros. Quand est-ce qu'enfin on va les mettre au pas? Parce qu'ils dirigent le pays, mais en même temps ils dirigent nos vies. Et nos vies, elles nous appartiennent plus. Et cette colère-là, elle est légitime et elle est populaire. Et le gouvernement Macron, qui est un gouvernement de riches, eh ben il a peur. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous faire tout un cinéma autour d'un prétendu grand débat. Le problème, c'est pas que la question des institutions. Si, moi je pense qu'il faut sortir de la Ve République parce que c'est une monarchie. Mais la vraie question, quand même, c'est quelle dignité pour le peuple? On travaille, on doit vivre, on doit pouvoir se nourrir, on doit pouvoir accéder à la santé, on doit pouvoir accéder à la culture, on doit pouvoir partir en vacances, on doit être confiant dans l'avenir de nos enfants et on doit permettre à nos retraités de vivre dignement. Voilà, c'est une bouffée d'air et nous, on se bat également, on est tout cœur avec les Gilets jaunes, chaque fois qu'on peut filer un coup de main. On le file, bien évidemment. On a des camarades qui sont gilets jaunes également. Et puis, je pense qu'il va falloir continuer à pousser parce qu'on pointe du doigt les questions essentielles. Et c'est pas les grands shows de 7h, 8h ou 9h de Macron avec les chemises, les bras de chemise retroussés qui vont changer les choses. Voilà. En gros, c'est classe contre classe et camp contre camp. Et je pense que c'est bien que la voix populaire se réveille aujourd'hui.
On reviendra sur ces questions justement autour du grand débat, Kamel Benazouz. Alors, la durée de ce mouvement social est exceptionnelle, on l'a dit, ça contribue toujours, hein, quand un mouvement dure comme ça, à modifier le ressenti de l'opinion publique. Et pour la première fois, selon un sondage Odoxa Dentsu Consulting réalisé pour France Inter, l'Express et la presse régionale qui a été publié hier, 55% des Français veulent aujourd'hui l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes. Que pensez-vous de ce chiffre autour de la table? On va peut-être commencer justement par les Gilets jaunes autour de cette table, Hélène et Frédéric.
Ces organismes sont tenus par qui? On fait dire à un sondage ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voit, c'est quand on fait du tractage pour donner une information aux automobilistes, il y en a 9 sur 10 qui nous disent on vous soutient. Donc je ne vois pas les 55% de mécontents. On a fait la manifestation vendredi, les gens étaient à leur fenêtre, on a même un petit monsieur, on s'est arrêté pour chanter la Marseillaise, qui est sorti avec son drapeau français, qui était fier de nous voir. Et quand on lui a chanté cette Marseillaise, il était aux anges, il en a pleuré. Donc le soutien, nous, sur le terrain, on l'a.
On a plein de personnes, comme disait Fred, surtout lâchez pas, restez, il ne faut pas lâcher, si vous lâchez, c'est fini, on n'aura jamais rien. Moi, je pense que on ne peut pas lâcher. Pour tous ces gens, on ne peut pas lâcher. C'est sûr qu'il y a plein de personnes âgées tout ça, qui ne peuvent pas venir avec nous. Mais nous, sur Béthune, on a des fois des messieurs de 88, 89 ans qui nous rejoignent le samedi matin, qui nous disent surtout, surtout, continuez, on est là avec vous. On a plein de personnes qui nous ramènent du café, de l'eau, des denrées. Si on n'a pas le soutien, je ne comprends pas. Maintenant, oui, les sondages, mais... Moi, personnellement, j'ai déjà jamais été interrogée sur un sondage pour me demander est-ce que vous soutenez ou pas les Gilets jaunes. Donc, qui sont ces personnes interrogées?
Oui, alors souvent, c'est un panel d'un millier de personnes à peu près, représentatif.
1080 personnes, je crois, pour ce sondage à hauteur de 55%. Je dois avoir les chiffres là quelque part.
Il faut pouvoir tomber dessus.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Mais si je peux me permettre, la question du soutien, mais ce que porte le mouvement des Gilets jaunes, comme toutes les batailles syndicales, comme toute une série de choses, c'est du bon sens populaire quand même. Ce qui est demandé, c'est de vivre dignement. C'est pas du saupoudrage. La prime d'activité, je suis désolé, mais c'est encore du saupoudrage. C'est ce qu'on propose, par exemple, nous les communistes, c'est 200 euros net d'augmentation du SMIC, ça fait 260 euros brut, des salaires, des pensions et des retraites. Et l'argent, il existe. Je m'excuse, mais d'après les classements, la France est toujours la cinquième puissance mondiale. On va pas nous faire croire que ça va ruiner l'économie. Et voilà. Donc ces questions populaires, elles sont là. Et ouais, il y a peut-être un peu moins de monde dans les manifs, mais là, faut pas insulter l'avenir. On va bien voir ce qui va continuer à se passer. Et le mépris, qu'est-ce qui va sortir de ce grand débat, si ce n'est, à mon sens, du mépris? Eh ben oui, il faut que ça continue, il faut que ça pousse. D'ailleurs, le 16 mars, avec les communistes et Fabien Roussel, notre secrétaire national, on va à l'Élysée, parce qu'on a ouvert aussi des cahiers de doléances, et on va aller les porter là-bas, parce que de toute façon, on porte à peu près les mêmes choses. Et c'est toujours le même filigrane, on veut vivre dignement.
Philippe Kemel.
Oui, sur le sondage, c'est un sondage national.
Oui, alors justement, j'ai la petite précision que je vais me permettre d'apporter. Effectué sur un échantillon de 1004 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus qui ont été interrogés par Internet les 20 et 21 février. C'est la précision qui nous est apportée autour de ce sondage.
Bon, et nationalement, quand on regarde la carte de France, on voit on est dans une région, on n'a pas les plus riches, quoi. On est quand même... Et donc ici, on sent bien que le soutien est fort, incontestablement. Donc, et que les questions sociales, les questions de la répartition du revenu, d'un juste revenu pour celles et ceux qui travaillent et qui connaissent les difficultés d'aujourd'hui, sont réellement posées. Et il faut vraiment les poser, et les poser de façon à ce que ce soit la société tout entière, parce que l'État peut... Mais il y a aussi, je dirais, dans les entreprises. Dans les entreprises, le rapport avec les dirigeants d'entreprise doit pouvoir se faire de façon à ce que les rémunérations évoluent, qu'il y ait d'une certaine manière des accords faisant qu'il y ait une répartition différente et que pour les bas salaires, on sache les augmenter normalement ou correctement.
Radio Plus, émission spéciale, Gilets jaunes, où en est le mouvement ?
18h35 en direct sur Radio Plus. Vous êtes donc toujours à l'écoute de cette émission spéciale consacrée au suivi du mouvement des Gilets jaunes. Et on va parler donc des actions du gouvernement pour tenter de calmer la crise. Face à ce mouvement, Emmanuel Macron, avec l'appui du gouvernement, a proposé en effet toute une série de mesures pour tenter de sortir de la crise. La tenue d'un grand débat national, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, afin de mieux cerner les attentes des Français. L'augmentation du pouvoir d'achat par le biais de la prime d'activité à hauteur de 100 euros. Les primes défiscalisées exceptionnelles. Le gel du renforcement du contrôle technique automobile qui aurait entraîné mécaniquement une hausse supplémentaire du coût de ce dernier, le gel de la hausse de la taxe carbone qui avait été désignée comme responsable de la hausse des prix du carburant, des mesures estimées au total à 4 milliards d'euros, sont-elles tout d'abord suffisantes? Je vais commencer par vous, Kamel Benazouz.
Comme d'habitude, on est dans le Macron show avec son gouvernement. C'est du saupoudrage. On se fout de la gueule du peuple. Royalement. Le contrôle technique ou autre, il suffit de se balader dans le bassin minier ou dans le Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures hors d'âge parce qu'il n'y a pas les moyens pour s'en acheter. À chaque fois, c'est du saupoudrage. Et en fait, je pense qu'on est face à un gouvernement et on est face à des ministres qui ne touchent plus seul. Ne touchent plus le seul. On ne vit pas la même situation et on ne vit pas dans la même France. Voilà. Et malheureusement, ce qu'ils sont en train d'organiser, ce gouvernement, c'est ce que j'appelle la guerre des pauvres. On oppose les gens les uns avec les autres. Celui qui a du boulot, celui qui n'a pas de boulot. Le retraité avec le jeune. L'immigré avec le français ou autre. Et pendant ce temps-là, très tranquillement, à l'abri, certains touchent des salaires de 100 000 euros par mois, etc. Mais eux, ils ont eu un cadeau. Hein. L'impôt de solidarité sur la fortune, hein, c'est un cadeau de 3,5 milliards d'euros. Fait aux plus riches et aux plus nantis dans ce pays. Donc c'est encore une fois du saupoudrage, mais c'est dans la logique Macron et de son gouvernement.
Hélène Laurent ?
Ben, oui, il faut, je pense aussi au niveau des entreprises, comme dit monsieur, peut-être faire un rééquilibrage. Il y a des gens qui se mettent énormément de salaire dans la poche. Eh ben, pourquoi ils s'enlèvent pas un peu de leur salaire et ils renonnent pas à leurs employés? Parce que si une entreprise fonctionne, je pense pas que c'est que grâce au patron, mais aussi grâce à ses employés.
Une revendication qui me traverse l'esprit, comme le salaire, un salaire maximum, pour vous, ça a du sens?
Oui. Mais alors, et même nous, on avait parlé d'un salaire au prorata, en fait.
De l'utilisation du salaire médian pour la rémunération des élus, ne pouvant excéder 5 fois le montant du SMIC. Donc, s'ils veulent être plus payés, ben.
Il faut augmenter le salaire.
Ils nous augmentent.
Mais je pense aussi que ça peut être bon pour les chefs d'entreprise. Alors, attention, les chefs d'entreprise ont eu. Le courage de créer quelque chose, mais s'ils créent et que ça fonctionne, c'est pas que grâce à eux, c'est aussi grâce aux employés qui sont dans l'entreprise. S'il n'y a pas d'employés, je pense que le chef d'entreprise ne peut pas faire fonctionner la boîte tout seul. Donc, il y a plein de choses où on peut agir, mais on ne peut pas le faire, nous, tout seul. Nous, on nous demande plein de sacrifices, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on en fait énormément. Et quand j'entends monsieur Macron qui nous sort qu'on n'a pas le sens du sacrifice, nous les Français, ça me fait un peu rire parce que bah, je vois pas. On finit déjà les mois tout juste ou à découvert, donc je vois pas où on peut faire plus d'efforts. Enfin, c'est plus possible à l'heure actuelle.
Philippe Kemen ?
La question exactement.
Sur, est-ce que ces mesures sont suffisantes ?
Elles sont. Ce ne sont pas des mesures. Ce ne sont pas des mesures. L'ampleur du mouvement qui amène à changer ou à modifier les règles de la prime d'activité qui elle-même, je l'ai dit tout à l'heure, varie. C'était quand j'ai entendu le président de la République qui annonçait cela. D'ailleurs, je me demandais si vraiment c'était une déclaration sérieuse. Sur le fond, il n'y avait pas de proposition par rapport à la demande d'un pouvoir d'achat correct pour des gens qui connaissent de la difficulté et qui connaissaient une difficulté par rapport à un salaire dont le pouvoir d'achat s'érodait depuis plusieurs années, plusieurs mois, et qui s'érodait encore compte tenu des taxes sur le carburant. On n'est pas sur la vraie réponse. Aujourd'hui, je comprends qu'ils continuent à poursuivre le mouvement car ils n'ont toujours pas eu la vraie réponse sur l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Mais c'est là où je pense que la question n'est pas seulement posée au président de la République. Alors, si, lui, il a mené une politique pour les très riches, on l'a indiqué tout à l'heure, mais elle doit être posée aussi par le biais des partenaires sociaux à l'ensemble du mouvement des dirigeants d'entreprise. Car la valeur, elle se crée dans l'entreprise. La valeur, elle se répartit dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le paritarisme n'existe plus, les mouvements syndicaux ont été mis sous le boisseau, et donc on voit bien que les conséquences de cela, c'est qu'on a de la verticalité, mais cette verticalité, elle n'est pas favorable eh bien, aux salariés, tout simplement, et aux salariés ayant des revenus moyens et moyens moins. C'est ça la grande difficulté. Il faut aujourd'hui, dans ce pays, réinventer les règles de la répartition. Il faut que nous ayons un débat sur la répartition du revenu pour voir comment, justement, on peut avoir une répartition beaucoup plus juste. Et le débat sur la fiscalité, alors, prend tout son sens.
On reparlera évidemment aussi des questions de fiscalité. On va avancer, on termine par vous, Frédéric Durier. Ces mesures sont-elles suffisantes ?
Non, pas du tout. C'était des petites mesurettes qui ne touchent qu'une infime partie des gens qui étaient mécontents. Et comme ce grand débat, c'est une grande mascarade, histoire de gagner du temps, à mon sens, et au sens de
nous fatiguer
de la plupart des gilets jaunes, afin de nous épuiser pour mieux pouvoir nous museler et qu'on rentre chez nous et qu'on se dise bon ben voilà, les gilets jaunes sont partis, maintenant on peut passer à autre chose. Sauf que manque de bol pour lui, même quand on a eu moins 2, moins 3, la neige, on est resté dans nos QG, dans nos ronds-points, dans nos baraques de fortune, autour de notre tonneau, avec notre petite boîte palette qu'on cassait tous les jours. Et puis ben là on arrive mois de mars, pas de bol, il commence à faire du soleil et on est encore là. On n'a pas lâché. Et comme je disais encore vendredi, on a un slogan chez nous.
On lâchera
est
rien.
Tous ensemble et on ne lâchera rien.
Alors vous parlez de timing justement. Est-ce que ces mesures qui ont été proposées sont arrivées trop tard ? Dit autrement, si elles étaient arrivées dès les premiers jours du mouvement, est-ce que ça aurait pu calmer la mobilisation ?
Alors ça l'aurait tout au moins plus apaisé et ça aurait permis peut-être de pouvoir continuer dans un autre contexte, dans un contexte qui n'aurait pas amené, par exemple, lors du troisième acte, ces fameux casseurs qui ont dégradé une tombe, la tombe du soldat inconnu, qui nous a tous exaspérés, qui ont vandalisé l'Arc de Triomphe. Et ça, ça nous a révulsés. Ça nous a révulsés de voir cet édifice saccagé par une bande de petites personnes.
Mais ils sont pas gilets jaunes, ces gens-là. Enfin, voilà, on en parle partout autour de nous.
C'est des fachos.
C'est pas des gilets jaunes. Nous, on est complètement contre la casse, l'agression aussi des policiers. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que comme la prime d'activité, elle ne concerne pas tout le monde. Moi, personnellement, j'ai pas la prime d'activité et je suis dehors. Donc, enfin. Voilà, ça ne concerne pas l'ensemble des gilets jaunes, ça ne concerne qu'une petite partie, et en plus, ces gens qui ont eu une augmentation de prime d'activité ont eu de la perte d'APL derrière.
Monsieur. Je vais juste rebondir. Quand vous dites facho, c'est un terme que je ne peux pas accepter, parce que ça incrimine forcément un des partis politiques français que tous les médias donnent en premier nom, etc. Et
j'assume.
C'est pas pour moi, c'est juste des petites personnes qui sont irréfléchies, qui sont là que pour casser. Quand vous faites des manifestations, quand la CGT en fait, quand le Sud en fait, quand la CFDT en fait et autres, ces gens-là sont là et ils font pas forcément partie parti. Qu'on appelle l'extrême droite, le Rassemblement National et compagnie.
J'en parle en connaissance de cause parce que on les connaît bien dans les manifs et ils sont extrêmement organisés. Extrêmement organisés. Et d'ailleurs, il y a toute une série de sites, vous allez voir, animés par l'extrême droite. Qui appellent à une révolution sociale, blablabla, et ça fait partie de leur pratique. Mais le problème, c'est que ça décrédibilise totalement les revendications populaires.
Ah là, je suis d'accord avec vous. Ça nous décrédibilise, et malheureusement, tout le monde fait cet amalgame entre ces casseurs et nous, alors que eux ne sont pas du tout gilets jaunes, ils sont là pour casser.
On a bien compris le message. Alors, on va revenir sur la thématique du pouvoir d'achat. Une étude toute récente de Famille Rurale, parue pas plus tard que la semaine dernière, qui est au cœur du sujet, le pouvoir d'achat, affirme que faire ses courses n'a jamais coûté aussi cher. Et l'étude, sur la base d'un caddie de 35 produits de consommation courante, pointe du doigt l'augmentation de 7% sur les premiers prix, ce qui donne un caddie premier prix à 104 € et un caddie moyen de 139,50 €. Quelles sont vos réactions par rapport à ces chiffres ? Qui réagit ? Kamel ?
Oui, c'est dans la même veine. Hein. En gros, le peuple, en gros, c'est pour les riches, c'est des couilles en or, et pour le peuple, c'est des nouilles en corps. Voilà. Et donc, successivement, on s'est pris des augmentations sur l'alimentation, c'est 6% sur l'électricité, je ne parle pas du gaz, c'est 7% sur les péages, c'est l'essence, etc. Et oui, effectivement, ça devient de plus en plus dur. D'ailleurs, il suffit de voir nos amis du Secours Populaire ou des Restos du Cœur ou du Secours Catholique. Ils n'ont jamais vu autant de gens venir, ou aussi dans les épiceries solidaires, parce que les gens n'arrivent plus à manger correctement. Il y en a qui font un repas par jour. Et ça devient dramatique. Et pendant ce temps-là, tout là-haut, ça plane, ça vole. Je ne sais pas ce qu'ils fument. Peut-être la moquette. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et on va... je le disais il y a quelques années avec des camarades, on va se diriger vers des émeutes de la faim. Parce que les gens n'arrivent plus à vivre, y compris celles et ceux qui travaillent. Et voilà, cette situation, elle est intenable. Et le gouvernement, il ferait bien d'entendre et de remettre les choses à plat. Et pour M. le RIC, c'est tout à l'heure, pourquoi pas, si c'est pour conquérir de nouveaux droits.
Frédéric ?
Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Alors, effectivement, ces produits-là augmentent. On dit toujours, on met une taxe pour, mais c'est jamais reversé au bon endroit. Un exemple tout bête, la sécurité sociale. Si on donnait les taxes sur l'alcool, le tabac et compagnie à la sécurité sociale, elle serait excédentaire. Sauf que là, elle est déficitaire. Parce que l'argent est utilisé à autre chose. À payer des choses qui ne servent pas à la première cause. Donc, on peut toujours tout augmenter. Si c'est pour pas reverser cet argent à la cause de départ, on est toujours dans le même système. On prend de l'argent à droite pour le reverser à gauche alors qu'il devait être mis au milieu.
Philippe Kébel.
Oui, et la question du système fiscal est particulièrement compliquée. Aujourd'hui, on a plutôt assisté ces derniers temps à une diminution de l'impôt sur le revenu, pas de la contribution sociale généralisée, qui elle aussi est un impôt sur le revenu, mais l'impôt sur le revenu par lui-même a diminué. Il y a eu énormément de foyers fiscaux qui sont sortis de l'impôt sur le revenu. Et oui, cela a été compensé sur le plan budgétaire par les taxes. Et à partir du moment où la taxe, elle n'est plus proportionnelle au revenu, alors, et vous avez raison de faire un combat contre la taxe, parce que la taxe, elle n'est plus un élément de régulation et de répartition du revenu, c'est clair. Et oui, il faut faire cette bataille-là, et qu'aujourd'hui, l'inflation tend à repartir, hélas, vos statistiques sont justes, et donc elle pose de nouveau toujours la même question, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, comment on vient le réguler, combien on va créer les situations d'augmentation des rémunérations pour que le pouvoir d'achat se maintienne et augmente pour les catégories que vous représentez, et comment, d'un point de vue du système fiscal, eh bien on arrive à régler et à transférer une partie taxe sur impôt en fonction du revenu. Et ça repose la question eh bien, de la participation à l'impôt sur le revenu des riches et des très riches. Ça repose la question, bien sûr, de l'impôt sur la fortune. Et ça pose aussi la question, moi je repose la question, qui était celle, n'oubliez pas, on s'est moqué du président Hollande quand il voulait mettre la taxation à 75%. Il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu parce que à l'époque, il y a eu des mouvements qui contestaient cela. Et peut-être que le mouvement populaire n'a pas su, ou peut-être que lui n'a pas su expliquer suffisamment, mais il n'y a pas eu une mobilisation populaire pour soutenir cela. Et donc, la répartition du revenu qui soit beaucoup plus au niveau de l'impôt, qui soit plus égalitaire, on n'a pas réussi à l'enclencher. Et c'est un sujet sur lequel il faut, je pense, retravailler. Et j'espère qu'autour de votre mouvement, on pourra de nouveau y retravailler. En tout cas, j'espère que dans votre mouvement, à la fin de votre mouvement, on retrouvera l'impôt sur la fortune. Et on retrouvera un impôt sur la fortune qui sera peut-être calculé autrement, justement pour faire que les hauts revenus soient amenés à contribuer d'une manière plus importante en fonction de l'augmentation de leurs très hauts revenus.
En parallèle à cela, on apprend que 4 personnes sur 10 en France touchent moins de 15 540 euros par an. La France est-elle en train de devenir un pays de bas salaire ? Est-ce qu'on peut aller à l'encontre de ce fait ?
Je pense qu'il faut aller à l'encontre de ce fait pour une simple bonne raison. Déjà pour dire à Philippe Kamel, moi j'ai toujours ce dicton populaire, quand on veut, on peut. Et ça fait plus de 40 ans, voire plus, qu'aucun gouvernement s'est attaqué aux plus riches. Il y a eu quelques mesures ici et là, il y a eu des bonnes mesures qui sont arrivées.
T'as quand même eu le 75%.
Oui.
Et tu l'as défendu.
Mais c'est pas un souci, mais quand on veut, on peut, donc faut s'attaquer à la finance. Et cette pauvreté-là, en gros, on est en train de nous bâtir une société low cost. On a la chance d'être bien doté et bien nanti. On s'en sort royalement et on paye de moins en moins d'impôts. On est dans ce qu'on appelle le ventre creux, la masse et le peuple. On est taxé là-dessus. Et ben, je pense qu'il faut travailler et continuer à se battre et avoir des convergences de lutte et de bataille pour casser la figure à ce système qui est le capitalisme et qui quand même brise des vies. Et je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Le capitalisme, c'est pas une fin en soi. On peut y arriver. Et toutes les mobilisations sont nécessaires pour faire avancer ça et la vie des gens, surtout la vie des gens.
Hélène, Laurent, sur les bas salaires, sur le fait que le panier augmente aussi, sans forcément derrière une augmentation du salaire.
Ben, c'est sûr que moi, maman de famille, je fais mes courses régulièrement, enfin toutes les semaines. Il y a 2 ans et demi de ça, je vais parler d'un petit cas personnel.
Oui.
J'ai été en arrêt pour ma deuxième grossesse, où j'ai une grossesse très compliquée. Mon mari ne comprenait pas pourquoi les caddies étaient si chers. Il me dit, mais qu'est-ce que t'achètes pour que ce soit si cher? Et je lui dis, ben, tu sais, rien d'extraordinaire. Tu vois bien la maison, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf que là, j'ai été alitée. Donc, il a été faire les courses. En revenant, il me dit, eh ben, je comprends, mais tout est super cher. Et pourtant, enfin, pas forcément d'alcool ou quoi, dans quoi que ce soit dans le caddie. Et vous prenez un morceau de viande, par exemple, enfin, un peu de viande, un peu de laitage, un peu de fromage, eh ben, c'est très, très cher. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, c'est entre 150 euros et 200 euros de course pour 4. Et pourtant, j'ai rien...
À quelle fréquence ?
Une fois par semaine.
Une fois par semaine, oui.
Et j'ai rien d'extraordinaire dans mon caddie. Donc, c'est sûr qu'on peut remarquer que c'est très cher. Et notre salaire, enfin, moi, personnellement, en ayant le prêt de maison, la nounou, l'essence, tout ça, enfin, à la fin du mois, on est plus en négatif qu'en en positif. Donc... Oui, c'est très cher. Maintenant, c'est à eux aussi de nous trouver des solutions. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas en mesure de connaître tous les chiffres que vous connaissez. Je ne suis pas en mesure de donner plein de solutions. Maintenant, on en a quelques-unes. Peut-être qu'elles sont bonnes ou pas. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser et à travailler. Et peut-être que la TVA, ça peut être aussi un moyen de pouvoir...
Oui, vous parlez de la baisse de la TVA sur les produits de première
nécessité.
Et l'augmentation sur les produits de luxe, parce que personnellement, quelqu'un qui achète un sac à 7000 euros peut se l'acheter à 8900. Que quelqu'un qui fait des courses sur les produits de première nécessité, eh ben, si c'est baissé dans son caddie, voilà, je pense qu'on peut regagner. Alors, on a tous des divergences, on n'est pas tous forcément d'accord. Mais moi, personnellement, je pense que ça peut peut-être être une mesure qui puisse aider. Même si on vient dire un parfum, ce serait un produit de luxe, personnellement, j'en achète pas toutes les semaines. Si j'en achète un par an, que je viens le payer peut-être 30 euros de plus, mais que si j'ai gagné tout au long de l'année une somme sur mon caddie de course, je pense que je peux le remettre ailleurs.
Il nous reste 1 minute 10 avant la pause publicitaire.
Oui, on va simplement peut-être rappeler qu'on va se retrouver à partir de 19h pour la suite de cette émission spéciale Gilets jaunes où en est le mouvement avec nos invités. Dans cette deuxième partie d'émission, on terminera bien sûr d'évoquer cette thématique sur comment calmer la crise. Et puis on parlera bien sûr du sujet d'actualité brûlant, celui du grand débat. On se posera la question de savoir s'il s'agit d'un coup de com' ou d'une opportunité réelle d'expression démocratique. On se retrouve à partir de 19h sur Radio Plus dans cette émission spéciale consacrée aux Gilets jaunes.
Toujours en direct.